enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais, dans le nom de Jésus. J'ai lu quelque part que notre esprit, c'est comme un parachute. Il ne fonctionne que s'il est ouvert. Si vous avez un parachute sur le dos et que vous sautez de l'avion, s'il ne s'ouvre pas, bien que vous ayez un parachute, il ne vous servira à rien si ce n'est de descendre plus vite. Et de la même façon, la Bible nous encourage à ne pas s'ouvrir à toute influence, mais si nous voulons recevoir de Dieu, il faut qu'on puisse s'ouvrir à lui. C'est ce que nous venons de faire. Je vous ai aidé un petit peu en le verbalisant. Ça peut être une répétition comme un perroquet et ne produit rien du tout en vous. Et on ne veut pas non plus faire style secte, lavage de cerveau, mais on veut vous donner l'occasion de pouvoir verbaliser et de pouvoir exprimer ce que vous devriez faire chaque fois quand vous approchez de la parole de Dieu, c'est-à-dire avoir conscience que si je ne m'ouvre pas maintenant à la parole et à l'action de l'Esprit de Dieu, des milliers de paroles peuvent être prononcées sans qu'il y ait grand effet. D'accord ? C'est pour ça que nous faisons cela et que nous aimons le faire. Amen. Donc le titre pour ce matin, ça sera « Changer d'habitude ». J'avais déjà fait un premier message où j'ai parlé de nos habitudes. Et maintenant, nous allons changer d'habitude. Des habitudes ont besoin de changer dans notre vie si nous voulons expérimenter la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas un spécialiste des statistiques et des chiffres et je ne sais pas comment on pourrait calculer ça, mais j'ai dit qu'au minimum, nous avons 90-95% de notre vie et de nos activités quotidiennes qui sont composées d'habitudes, des choses que nous faisons pratiquement de façon répétitive. Donc, si nous espérons que notre vie spirituelle va être changée comme par un coup de baguette magique sur une intervention divine, sur une réunion ou un instant de Dieu, je suis persuadé que c'est possible parce que Dieu est le Dieu des miracles. Mais cette influence ne sera que limitée, soit limitée dans le temps ou limitée sur un petit morceau de votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce que nous voulons faire ici, ce n'est pas vivre des bons cultes le dimanche. Mais ce que nous voulons faire, c'est de nous rendre capables de vivre une bonne semaine. Donc vous avez besoin de recevoir des choses le dimanche, qui vous servent le dimanche, mais surtout toute la semaine. Et ça, toute la semaine, vous n'avez pas l'habitude d'avoir un culte tous les jours. Vous êtes obligé de faire votre culte personnel, par exemple. Vous êtes obligé d'avoir vos propres habitudes. C'est pourquoi nous allons voir encore certaines choses concernant des habitudes. La dernière fois, j'ai été, et je ne vais pas faire un développement de nouveau, il faudra écouter l'enregistrement qui a été fait. La dernière fois, j'étais assez négatif sur beaucoup de choses où nous avons pris de mauvaises habitudes qu'il faut changer. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ces mauvaises habitudes que nous avons, tout le monde en a. D'accord ? Il n'y en a pas un qui est parfait. Donc tout le monde a des mauvaises habitudes. Des fois, ce ne sont même pas des péchés, mais ce sont des mauvaises habitudes qui nous privent du meilleur de Dieu. Et donc, si nous nous accrochons à ces mauvaises habitudes, l'Esprit de Dieu ne pourra pas nous bénir et faire dans notre vie tout ce qu'il aimerait. Donc, c'est quelque chose que nous devons d'abord reconnaître, les mauvaises habitudes. On a vu trois types de mauvaises habitudes. Premièrement, les mauvaises habitudes développées qui conduisent à des dépendances. alcool, drogue, etc. Et ça peut être d'autres dépendances comme nourriture, télévision, ordinateur. Et puis on a eu droit dernièrement encore, on avait un vendredi 13. Qu'est-ce qu'on a entendu sur les jeux d'argent? Il y a des gens qui sont vraiment passionnés de ça. Ils ont l'habitude de parier et ils perdent beaucoup dans ces affaires-là parce que on vend du rêve, on vend une possibilité de devenir riche rapidement sans effort. Et donc le deuxième type d'habitude, c'est le comportement. Tous les comportements que nous avons vu que le diable ne nous connaît pas. Il ne sait pas tout de nous et il ne peut pas lire dans nos cœurs. Mais il nous observe, il observe nos réactions. Et nous allons voir dans un instant que Jésus a été tenté en tout comme nous. On va voir au moment de la tentation que le diable n'a pas pu le sonder. Il a fallu qu'il vienne à lui et qu'il le tente de toutes sortes de façons. Et donc un troisième type de mauvaise habitude, c'est dans l'attitude que nous avons. Quelqu'un qui a pris l'habitude d'être toujours négatif, toujours pessimiste, toujours voir le mauvais côté, toujours râler, être dur avec soi-même, avec les autres, inquiet, angoissé. Tout ça, c'est des choses qui viennent vers chacun d'entre nous. Mais certains les adoptent comme des types de comportements au point qu'ils deviennent pratiquement comme ça. Et leur identité change. Donc, quand le Seigneur a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ça voulait dire « Accédez à cette maturité en Christ que vous pouvez avoir. » Où vous n'êtes pas le sujet des circonstances extérieures et de toutes les habitudes qui sont venues en vous. Nous avons vu, et ça je reprends juste ce verset, dans 1 Pierre 1, il est dit que nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Et nous avions vu que cette vaine manière de vivre, on ne l'a pas reçue. On l'a héritée, mais on ne l'a pas reçue génétiquement. Je suis né et puis au bout d'un moment, j'adopte les mêmes types de comportements que mes pères. Nous avons hérité la nature du péché, mais toute notre façon de vivre a été, au fur et à mesure de notre éducation et de notre croissance, copiée sur des comportements que nous avons vus. C'est ça que nous avons hérité. Donc maintenant que nous avons une nouvelle nature en Christ, la nature de notre Père Céleste, ça c'est une bonne chose. Mais les vieilles habitudes héritées de nos pères peuvent encore continuer et durer. Donc nous désirons ce changement. Comment ce changement peut-il avoir lieu? Comment peut-on briser une habitude? Pour briser une habitude, c'est quelque chose qui va être dur. Forcément, il y aura un moment difficile. J'ai médité sur le fait que Jésus a été conduit par l'Esprit pour un jeûne de 40 jours. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez régler tous vos problèmes en jeûnant 40 jours. Mais nous avons un élément qui est important là-dedans. C'est une durée de 40 jours qui permet de changer quelque chose dans sa vie. Une habitude sera changée si vous faites quelque chose d'une façon différente pendant une période. Qu'est-ce qu'on avait vu comme définition de l'habitude? On commence quelque chose et puis on le fait de manière répétitive et régulière jusqu'au bout d'un moment, on n'y pense même plus, des fois on le fait automatiquement. Pensez bien que Jésus était... Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que l'Esprit de Dieu ne le conduise dans le désert? On va voir ça dans Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Si on s'arrête là, et je pense que concernant les habitudes, nous avons aussi des habitudes de pensée. Peut-être des habitudes de pensée de nous, que sommes des chrétiens, croyons à l'Évangile. Peut-être nous avons aussi certaines positions concernant le Saint-Esprit, son action dans notre vie, je suis persuadé que la plupart d'entre nous penseraient que vivre ce genre d'expérience règle tous nos problèmes. Vous ne croyez pas? Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur vous et vous êtes rempli. A priori, ça semble être suffisant pour régler nos problèmes. Mais pourtant, il a semblé important au Saint-Esprit dans Luc 4 de faire quelque chose de plus maintenant. Pas juste d'être rempli, mais maintenant, on peut dire avec l'équipement que le Seigneur a reçu, d'être rempli du Saint-Esprit, il fait quelque chose de plus. Et ce plus, c'est la mise en pratique, c'est la confrontation. Chapitre 4, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, a vécu d'une manière qui n'était pas différente, sauf en ce qui concerne le péché, de celle des autres gens qui vivaient autour de lui. Il avait sa famille, il avait une activité professionnelle, il grandissait. Alors qu'est-ce qui va faire que ce jeune homme, même ayant étudié la parole de Dieu, ayant grandi dans les choses de Dieu, devienne après un prophète, prédicateur, évangéliste parcourant les routes d'Israël? Qu'est-ce qui va faire qu'il soit capable d'exercer ce ministère? Il fallait qu'il y ait une confrontation avec tout ce qui a été sa vie d'avant. C'est ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. C'est pas seulement le fait qu'il a été tenté, il a triomphé de la tentation, et maintenant, on pourrait dire d'une manière un peu familière, apte, bon pour le service, maintenant il peut y aller. Ce n'est pas ça. C'est qu'il a permis à Dieu de faire une transformation en profondeur en lui pour changer toutes ses habitudes. Il avait des habitudes du quotidien, des habitudes de travail. Mais après, il s'est donné, pendant ses environ 3 ans de ministère, entièrement pour le Seigneur et pour prêcher la parole. Vous comprenez ça? Il a fallu qu'il y ait cette fracture, ce brisement par rapport à une ancienne vie. Même s'il n'y avait rien de négatif ou de péché avant. Et c'est ça qui est important pour nous aussi. Je ne suis pas en train d'essayer de montrer dans votre vie toutes les mauvaises choses qu'il y a. Je suis en train de vous dire que si vous voulez le meilleur de Dieu pour demain, il y a des choses que Dieu veut changer. Et ces choses, il ne pourra pas les changer, même. Et on peut vivre des expériences comme Jésus en a vécu. Vous pouvez être dans une réunion, on peut imposer les mains, vous pouvez faire une expérience avec le Saint-Esprit, et c'est certainement utile, et c'est certainement bon. Mais il y a des choses qui vont devoir être effectuées le lendemain et le surlendemain. Alors il faut que vous soyez déterminés pour faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour les trois jeunes gens, les Hébreux, qui étaient dans la fournaise? Vous vous rappelez, dans le livre de Daniel, il y avait à ce moment-là une pression sur eux. On voulait les faire adorer une statue d'or. Et ils ont dit non, on ne va pas faire ça. Donc c'est une prise de position. On peut dire c'est une sanctification, mise à part. Le reste du peuple adore la statue d'or pour surtout pas avoir de problème. Mais nous, on reste fidèles à Dieu. On ne va pas faire ça. Et pour ça, ils se sont trouvés dans la fournaise. Ça correspond dans notre vie à des prises de position. On dit non au péché, on dit non à des compromis. Et on n'a pas tout de suite, à cause de ça, une grande bénédiction, joie, paix, etc. Au contraire, des fois, ça devient plus difficile encore sur le moment. C'est ce qui décourage certains. Mais nous avons une promesse de Dieu, c'est que dans Actes, au chapitre 3, vous pouvez le prendre avec moi si vous voulez, il y a une promesse importante, au verset 19, Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Une promesse pour des temps de rafraîchissement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont été dans la fournaise de l'épreuve, quand ça chauffait pas mal et qu'on a l'impression qu'on n'en pouvait plus, il y a une promesse de rafraîchissement. D'accord ? Et ce rafraîchissement, et c'est ce que je voudrais vous expliquer, si je pouvais être sûr par la parole de Dieu qu'il y ait un moyen où je puisse, par une communication d'onction, par une imposition des mains, par un claquement des doigts, vous enlevez vos problèmes et vous propulsez dans la vie de victoire, je le ferai sans hésiter et je ne vous en priverai pas. Mais je suis persuadé que quelques bonnes puissent être certaines choses que nous faisons conduites par le Saint-Esprit, cela n'a jamais été vu qu'il y ait des effets prolongés. Il fallait toujours de nouveau se renouveler dans la présence de Dieu. Et il fallait toujours se renouveler dans l'onction, etc. Donc, le rafraîchissement qui nous est proposé, il ne sera pas non plus brutal. Si en été il fait très chaud, que vous promenez dans la montagne, vous transpirez parce qu'il y a je ne sais pas combien de degrés, et vous arrivez près d'un lac, et que vous plongez dedans pour vous rafraîchir, ce qui va se produire, c'est que vous avez un risque d'hydrocution, et qu'au lieu que ça vous fasse du bien, vous vous retrouvez dans une situation dramatique, voire même où vous êtes mort. Donc Dieu qui nous connaît bien, il sait comment faire pour le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors il nous a donné Ézéchiel 47, que vous connaissez certainement, la vision du torrent. Vous savez le torrent où d'abord il a trempé les pieds. Donc on va se tremper les pieds un petit peu d'abord, pour pouvoir s'habituer à la fraîcheur de l'eau. Et c'est la même chose dans notre vie. Si on pouvait, en disant, voilà, jusqu'à présent, j'ai eu tel comportement, telle attitude. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, et je me convertis, ça veut dire je change à 180 degrés, et j'adopte une attitude radicalement, complètement différente. C'est bien comme un 1er janvier, les bonnes résolutions. Et ça ne dure pas très longtemps. Tout le monde en a fait l'expérience. Donc, ce qu'il faut, c'est de pouvoir d'abord se rafraîchir et s'acclimater. Ouh, elle est un peu fraîche, hein. Et puis, mais en y allant progressivement, on commence à pouvoir s'habituer et notre corps peut s'habituer à la fraîcheur. Et peu à peu, on y descend, mais on veut pas juste se rafraîchir les pieds. On veut y aller entièrement et au bout d'un moment, on est capable d'y aller totalement et même de pouvoir nager dans le torrent. N'est-ce pas merveilleux? Alors ce que ça fait pour nous, c'est que nous pouvons aussi permettre à Dieu de nous transformer dans nos habitudes. Je prends encore un exemple du livre de Daniel. Daniel a été un prophète placé dans un pays de païens, d'idolâtres. Et c'était un homme intègre, c'était un homme qui était béni de Dieu. Et quand vous êtes béni, tout le monde ne dit pas « bravo, oh, c'est formidable ». Il y a des gens qui sont jaloux, qui sont envieux et qui voudraient ce que vous avez. Ils ne voudraient pas faire ce que vous avez fait pour l'avoir, mais ils voudraient ce que vous avez. Alors beaucoup de gens étaient jaloux de lui. Et ils se sont dit « mais comment ça se fait, ce Daniel, un étranger ?» Il nous prend notre travail. Et ils ont dit, comment est-ce qu'on va pouvoir le piéger? Et ils ont vu que la force, ils ont réalisé ça, le diable a dû les renseigner. Ils ont réalisé que la force de Daniel venait de sa communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, elle était entretenue parce qu'il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Ah, je ne suis pas en train de parler de légalisme, ça n'a absolument rien à voir, hein. Je ne dis pas prier 3 fois par jour et vous serez bénis. Ça n'a rien à voir. Je suis simplement en train de vous expliquer que la communion avec Dieu que Daniel avait, elle se caractérisait en particulier par une habitude de prière quotidienne. Et pas juste 1 fois 5 minutes. Une habitude de prière quotidienne au point que tout le monde le savait. Ce n'était pas discret. Tout le monde le savait et tout le monde en voyait les effets sur sa vie. Ils ont dit, il y a certainement dans la loi de son Dieu quelque chose qu'on pourra utiliser pour le faire tomber. Alors ils ont essayé de l'empêcher de prier. Et pour ça, ils ont fait spécialement voter une loi dans le pays. Imaginez un peu, transposer ça à notre France de 2004, qu'il y ait une loi spécialement votée par le Parlement pour éviter que l'un d'entre vous ne puisse prier et être en communion avec Dieu. C'est la réalité de ce qui s'est passé. On lit des fois la Bible, on ne pense pas à la façon dont ça s'est passé exactement. Alors, cette loi disait qu'il ne fallait pas prier pendant 30 jours. Et pour moi, c'est une illustration de ce que nous sommes en train de dire maintenant concernant les habitudes. Si vous ne faites pas quelque chose que vous avez fait pendant longtemps, d'une manière bonne, efficace pour votre vie spirituelle, alors quelque chose va s'arrêter. Vous savez, un train en marche, c'est difficile d'arrêter. Hein, il ne peut pas stopper brutalement. Il faut qu'il y ait un long temps. Mais quand le train est à l'arrêt, il ne peut pas non plus démarrer sur les chapeaux de roue. Parce qu'il y a des forces physiques qui agissent là. On va pas faire maintenant un cours avec les énergies cinétiques et tout le reste. Mais il y a quelque chose qui est en route. Et de la même façon, tout ce que nous vivons dans le naturel est elle a sa contrepartie, disons, dans le domaine spirituel. Les mêmes forces agissent dans le domaine spirituel. Donc si vous mettez quelque chose en route dans votre vie spirituellement, il y a des effets qui continuent. Et si vous êtes en communion avec Dieu, que vous avez régulièrement l'habitude de prier, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que c'est facile de prier. Et si vous arrêtez de prier pendant un moment et que vous voulez reprendre, premièrement c'est déjà difficile, et puis vous voyez que c'est plus comme autrefois. C'est la même chose avec l'exercice physique. La plupart des clubs sportifs font des pauses pendant l'été. Beaucoup de clubs, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent au mois de juin, on reprend en septembre. Alors si pendant 2 mois, il n'y a rien de fait, les premiers entraînements sont difficiles. Alors surtout si c'est mal fait, il y a de nouveau des courbatures et tout le reste. Alors que après quelques mois de pratique, on est en forme. Et donc, la foi, c'est notre muscle spirituel. S'il est exercé régulièrement, il arrivera à faire des choses que quelqu'un qui commence à peine ne peut peut-être pas faire. Mais si vous le faites régulièrement, vous voyez que ça devient de plus en plus facile. C'est une habitude d'exercice spirituel. Donc, on voulait empêcher Daniel, sachant très bien que s'il arrête pendant 30 jours de prier, ça sera plus pareil après. Premièrement, il sera coupé pendant ces 30 jours de la communion avec Dieu, qui va lui faire faire des erreurs, ça sera peut-être l'occasion de chuter, ou alors de toute façon on le piège parce qu'il prie quand même, et puis il est hors la loi, mais Dieu, lui, il est au-dessus de tout ça. Et il a su délivrer son serviteur parce qu'il est resté fidèle. Je pense encore à d'autres réflexions sur les habitudes. Pensez à ce qui se passe, bon, c'est encore un exemple sportif, bon, chez les footballeurs on appelle ça les automatismes, il y en a d'autres dans d'autres disciplines, mais les automatismes, ça veut dire que une équipe de football est constituée de 11 bonhommes. Si vous prenez les 11 meilleurs du monde dans chacune des disciplines, meilleur avant-centre, meilleur ailier, meilleur milieu, meilleur défenseur, meilleur gardien, vous les prenez de partout, vous les mettez ensemble sur le terrain, ils peuvent être battus par une autre équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Je ne dis pas par n'importe quelle équipe, parce que c'est quand même des pros. Mais ils peuvent être battus parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et ceux qui jouent ensemble régulièrement, au bout d'un moment, l'autre jour encore, il faisait un commentaire à la télévision et disait « Regardez, ce joueur, à aucun moment, il ne tourne la tête pour voir où est l'autre. Il savait exactement la position de son coéquipier. Tellement ils jouent bien ensemble qu'ils se connaissent, ils savent comment faire ensemble. » Et donc, de la même façon, nous pouvons avoir des automatismes, des choses qui se mettent en route dans notre vie spirituelle. Vous ne voulez pas avoir ça? Sinon, nous sommes de la même équipe, mais nous avons aussi un adversaire. Alors, créons dans notre vie de bonnes habitudes. Rappelez-vous, nous ne sommes pas nés avec. Personne n'est né avec. Et si on dit à quelqu'un, mais toi tu as une grande foi, c'est vrai que la foi est un don de Dieu, mais c'est avant tout quelque chose que nous avons choisi de développer ou non. Des fois avec les petits-enfants, on dit à quelqu'un, il a beaucoup de muscles ou peu de muscles. Si c'est dans le sens du nombre de muscles, nous avons tous le même nombre de muscles. Les êtres humains sont créés comme ça. C'est seulement une question de développement. Donc la Bible nous dit aussi que nous avons reçu une mesure de foi, donc c'est une question de développement. Alors comment ces habitudes sont-elles venues? Comme on l'a dit, on commence quelque chose, on le fait de manière répétitive, et puis nous voyons des résultats. Nous avons dans la Bible, il nous est dit que Jésus allait à la synagogue comme c'était son habitude. Il ne disait pas, moi je suis pas un homme religieux, moi je suis au-dessus de ça, etc. Non, il allait parce que il avait pris des habitudes. Il s'aidait aussi. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que Paul avait entendu qu'il y avait un lieu de prière près de la rivière. Il s'y est rendu, il a trouvé là les gens qui étaient assemblés. Et ça a amené la conversion de Lydie avec toute sa famille. Donc il y a des choses où nous voyons combien c'était important qu'il y ait des habitudes. Remarquez aussi comment Dieu a fait pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. S'il avait gardé comme leader pour le peuple et le faire sortir d'Israël quelqu'un du milieu d'eux, des habitudes de pensée des esclaves, c'est qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance, on ne vit pas pour le futur, on essaie juste de survivre au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le dessein de Dieu, c'est de sortir un homme du milieu d'eux, Moïse. Il l'a placé parmi les dirigeants du monde de l'époque pour qu'ils apprennent à penser comme pensent les dominateurs des peuples, ceux qui les dirigent, ceux qui les gouvernent. Et ensuite, il a repris cet homme et il l'a maintenant placé au milieu de son peuple pour qu'il puisse leur communiquer, je veux dire, cet espoir de délivrance et que quelque chose va se passer. Mais remarquez combien, pendant tout le cheminement du peuple pour aller jusqu'en Canaan, Moïse a dû combattre sans cesse, les habitudes mauvaises du peuple. Murmure, toujours rousse pétée, jamais vraiment faire confiance à Dieu, parce que toute leur intelligence était encore de mentalité d'esclave. C'est qu'ils étaient le peuple de Dieu. Vous voyez que c'est la même chose pour beaucoup de chrétiens. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils ont passé la mer Rouge. Ils ont vu les miracles dans le désert. Mais la mentalité d'esclave était là. Et sur 600 000 hommes, simplement les hommes, seulement deux, Josué et Caleb, sont rentrés dans la terre promise. Fait pas beaucoup au niveau des pourcentages. Mais vous savez, c'est difficile de faire des statistiques. Mais je me demande alors quel est le pourcentage du peuple de Dieu actuellement qui vit et expérimente Canaan. Ce ne sont que ceux qui seront animés d'un autre esprit comme Josué et Caleb. Et qui auront décidé de prendre les choses en main et dire non, on va changer nos habitudes. On va remplacer les habitudes qu'on avait jusqu'à présent par d'autres habitudes. Et là encore, je ne suis pas le policier derrière vous là pour regarder tout ce que vous faites. Mais je dis, examinez-vous vous-même. Quelle est votre attitude? Quelle est votre habitude? Quand vous venez au culte, qu'est-ce que j'attends du culte? Comment j'y vais? Est-ce que j'emmène ma Bible? Est-ce que je prends des notes? Est-ce que je réécoute certaines cassettes parce que je sais que c'est la parole de Dieu pour moi, mais que je ne l'ai peut-être pas captée à la première fois? Dernièrement, j'entendais une émission chrétienne, c'était sur cassette, et c'était un enseignement sur les temps de la fin. Vous savez, des fois, ça a l'air un petit peu compliqué, hein, l'apocalypse, tout ça. Et puis, il y en a un qui a dit, bon, ce serait bien de le réécouter. Puis l'autre a dit, faut l'écouter au moins 25 fois avant de pouvoir comprendre la question. Mais je crois qu'il y a des choses qui doivent absolument se répéter. C'est aussi des habitudes. Je vois dans la voiture, il est plus facile de rentrer dans sa voiture et de mettre de la musique ou d'écouter la radio que de mettre une cassette. Certains n'ont peut-être jamais pensé qu'ils pourraient utiliser, au lieu de perdre du temps dans la voiture, utiliser le temps pour écouter la parole de Dieu. Parole de Dieu prêchée ou la parole de Dieu lue. D'accord ? Bon, peut-être vous passez de la musique, c'est de la louange, ça vous fait du bien. C'est bien aussi. Peut-être vous aimez prendre du temps pour prier, pour méditer ou faire que sais-je encore. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps et seulement écouter des cassettes. Mais je dis qu'il y a des habitudes comme ça. On rentre dans la voiture, démarre, il y a la radio qui se met en route, des choses comme ça. Donc, on peut réfléchir à ça. Dans Hébreux 10, il nous est dit, on peut lire ensemble, un verset, je pense, assez connu, hein. Au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. On pourrait dire l'habitude, hein. Une coutume, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétitive. Donc je me suis dit, c'est un peu bizarre ça. Je peux quitter une assemblée une fois, mais de manière répétitive, si je suis parti, je suis parti. Alors je pars et je reviens, je repars. Et moi je crois que si on le regarde dans le contexte, je veux juste vous rappeler que cette épître aux Hébreux a été écrite spécialement dans le contexte du siège de Jérusalem. Vous le saviez ça? Donc le siège de Jérusalem ayant eu lieu par les Romains dans l'année 70 environ, beaucoup de Juifs commençaient à dire, si les Romains sont venus, c'est de votre faute, vous les Juifs messianiques. Parce que vous avez abandonné le Dieu de nos pères et maintenant vous êtes attachés à ce Jésus de Nazareth. Et à cause de ça, Dieu nous punit et le jugement de Dieu est venu par les Romains qui sont en train de nous attaquer. Alors il y avait des pressions sur les chrétiens, chrétiens qui étaient d'origine juive pour la plupart. Alors certains n'ont pas pu supporter ces pressions et ils ont commencé à abandonner les assemblées chrétiennes. Et ils ont dit, ah ben, c'est trop risqué, il y a de la pression, on nous accuse, on nous persécute. Et dans ce moment difficile, vient cette épître aux Hébreux pour les encourager à dire, tenez ferme dans la foi. C'est pour ça qu'il y a tellement d'exhortations. Vous allez hériter, comme les autres, imités par la foi, ceux qui héritent des promesses. Accrochez-vous à la foi chrétienne, restez ferme, n'abandonnez pas, etc. Donc ce n'est pas un verset pour donner un coup de massue à quelqu'un qui a osé quitter une église locale. C'est un verset qui est destiné à encourager les gens à dire « Ne perdez pas cette bonne habitude de vous entretenir dans la foi » et de rester attaché à cette révélation de Jésus-Christ que vous avez eue. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des pressions, je sais que les Romains ils sont autour en train d'assiéger Jérusalem, mais ils disent, n'abandonnez pas, verset 26, parce que si nous péchons volontairement, pécher ça veut dire renier Jésus. Si vous voulez une définition du péché, c'est ça. La définition la plus forte du Nouveau Testament, pécher c'est renier Jésus. Je dis, celui qui dit, je ne veux pas de Jésus, il a commis le péché, il est en destination enfer pour l'éternité. Et donc, il disait, vous avez reçu la connaissance de la vérité, vous avez réalisé que le salut vient par Jésus. Si maintenant vous péchez volontairement en disant, ce Jésus, bon, on l'a essayé pendant un moment, mais maintenant la pression est trop forte, je laisse tomber. D'accord ? Mais maintenant transposons-le à notre vie de tous les jours. Cette habitude d'abandonner une assemblée, on le transpose et ça donne lorsque la pression est là, lorsque les temps sont trop difficiles, je laisse tomber tout ce qui était important pour moi avant. Mon culte personnel, mes habitudes, études bibliques, réunions, etc. Et je me dis, si je laisse le diable tranquille, peut-être il me laissera tranquille un peu aussi. C'est une fausse pensée et c'est une mauvaise habitude de penser ça. Mais c'est répandu chez les chrétiens. Ils disent, J'ai été attaqué parce que j'ai attaqué le diable. Même si tu ne l'avais pas attaqué, il t'aurait de toute façon attaqué parce que son objectif, c'est de vous détruire. D'accord ? Et il ne s'arrêtera pas en vous ayant détruit à moitié. Il va vous détruire tout à fait, jusqu'au bout. S'il n'y avait pas l'action de l'Esprit de Dieu, cette terre sera déjà un chaos de apocalypse nucléaire, tout ce que vous voulez. Mais la Bible nous dit, ce qui le retient, ce qui retient l'Esprit de l'Antéchrist, c'est la puissance de l'Église de Jésus-Christ, qui est présente, qui exerce son autorité, qui prie, qui loue le Seigneur, qui agit sur cette terre, qui proclame la parole. Donc, voilà pour cette habitude d'avoir nos assemblées à prendre à ce sens large. D'accord ? J'aimerais vous donner une clé dans Romains 1, 14 à 16. Quelque chose qui peut peut-être vous aider à changer ses habitudes. Si vous désirez pas changer une habitude, de toute façon, elle changera jamais, hein. Ça, c'est clair. Et nous avions vu cette phrase l'autre fois. Ce que je tolère dans ma vie, je ne peux pas le changer. Ce que je tolère, ce que je trouve acceptable, je ne peux pas le changer. J'ai pas d'effet là-dessus. C'est seulement quand je réalise que cette chose est mauvaise pour moi, il faut que je change quelque chose. Donc, Romains 1, 14, c'est au sujet de l'évangile, hein, l'évangélisation, mais on peut le prendre aussi concernant notre vie personnelle. Dans le contexte, c'était l'apôtre Paul qui expliquait aux Romains son ministère et il disait « Je me dois aux Grecs », ça veut dire ceux du monde de toute l'influence grecque, aux barbares, c'était ceux qui étaient à l'extérieur, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et moi j'ai dit, s'il y a des changements dans notre vie, ça sera sur la base de ces trois choses que l'apôtre Paul vient d'exprimer. Premièrement, verset 14, j'ai un vif désir. Vous voyez, si vous n'avez pas envie de changer, rien ne changera jamais. Mais alors ne vous plaignez pas non plus. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, ben vous aurez toujours les mêmes résultats. C'est évident, ça ne peut pas changer. Mais si vous êtes lassé que les choses soient comme elles ont toujours été, alors il faut faire un changement. Il faut comprendre qu'il faut un changement. Alors comme je l'ai dit, première chose qu'on pense, un changement, ah, si on avait le coup de baguette magique spirituelle. Cherchons celui qui a l'onction. Courons après ceux qui ont les ministères qui vont nous débarrasser de ce qui nous embête. Et merci Seigneur, parce qu'il y a des ministères qui peuvent aider. Mais il y a des choses qui ne se produiront pas à moins que en vous-même vous ne réalisiez, il y a une œuvre que Dieu veut faire en moi. Est-ce que vous avez ce vif désir? Est-ce que vous avez ce vif désir? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous ne l'avez pas, la Bible nous dit Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Alors soyez honnête, dites-lui, Seigneur, je suis dans cet état, je suis pas content, mais j'ai même pas le courage ou envie d'en changer. C'est déjà une première étape. Ensuite, dites, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin que quelque chose change. Et il va le faire, il va créer une soif, il va créer un désir. Et après, vous avez ce vif désir, maintenant vous voulez changer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Réaliser que l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Quelque chose qui vous semblait impossible va se faire. Vous savez, il y a des enfants, c'est une bataille pour les parents de leur faire enlever l'envie de sucer leur pouce. C'est une bataille. Ou pour d'autres, de se ronger les ongles. Ça, c'est des choses graves que nous rencontrons au quotidien. Je plaisante un petit peu là, mais ça représente quelque chose qui est une bataille. On ne se rend pas compte, parce que peut-être pour moi qui ne suce pas mon pouce, hein, je vous le dis publiquement, je te dis, mais pourquoi il continue de le faire? Vous voyez? Mais pour lui, c'est difficile. C'est une habitude. Et là, ce n'est pas quelque chose forcément dramatique. Mais c'est difficile. Alors, comprendre que l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Ça sera la clé. Le vif désir est présent. Maintenant, comprendre qu'il y a une puissance. Vous dites, il n'y a pas de puissance, ça ne marche pas, j'arriverai jamais, c'est impossible, je ne peux pas changer. Ou vous le dites sur quelqu'un d'autre. Il a toujours été comme ça, il sera toujours comme ça, et il est dur. Alors, j'entendais, faut toujours que je prenne cet exemple. Je me rappelle, autrefois, dans une réunion de prière, certaines personnes avaient l'habitude, ils priaient soi-disant pour le salut des gens. Mais alors, le genre de prière, « Seigneur, tu sais combien il est dur et il ne veut rien entendre de toi, etc. » Mais ce n'est pas une prière pour le salut de la personne. C'est une prière qui la maintient dans son trou et la maintient dans l'impossibilité de changer. Comprenez? Nous n'avons pas besoin de le dire au Seigneur, il le sait. Il sait l'état dans lequel est la personne. Mais ce que Dieu aimerait entendre, il aimerait entendre « Peu importe, Seigneur, l'état dans lequel est cette personne, nous savons que tu as le pouvoir de la changer. » Voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qui lui est agréable. Et nous croyons que tu vas le transformer. Et tu ne vas pas le transformer pour que ça soit plus agréable pour nous. Tu vas le transformer parce que tu veux te glorifier dans sa vie et pour que cette personne soit heureuse. Donc l'évangile est une puissance. Amen.
Amen.
Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on a vu? Une puissance, vif désir, puissance, parce que en lui, dans le salut, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui s'empare des promesses de Dieu, mais nous avons souvent réalisé que si nous ne tenons pas ferme dans la foi, même nos beaux débuts, ils sont vite oubliés. Et pire encore, c'est que nous sommes découragés. Comprenez? Si vous faites prenez une bonne résolution le 1er janvier, et ça tient jusqu'au 3 janvier, vous reprenez une bonne résolution le 4 janvier, mais vous avez, dans votre conscience, vous avez en mémoire l'échec du 3 janvier. Et chaque fois, ça rajoute un petit peu. C'est comme quelqu'un qui viendrait pour une imposition des mains pour être guéri de ses maladies. Des fois, il se peut que Dieu guérisse instantanément. Simplement pour montrer qu'il est puissant, simplement pour montrer à la personne qu'il aime. Et d'autres fois, le Seigneur aimerait que cette personne ait d'abord construit sa foi. Mais elle vient alors pour l'imposition des mains, pas prête. On impose les mains vides sur une tête vide, comme on dit. Donc ça veut dire que des fois l'onction n'est pas là pour celui qui prie, et des fois la personne n'attend rien et ne croit rien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la prochaine fois, elle y croit un petit peu moins, et encore un peu moins, et encore un peu moins. Donc, il faudra savoir à l'avance qu'il y aura un moment où il faudra tenir ferme. C'est pour ça que j'ai parlé des 30 jours de Daniel et des 40 jours des tentations. Nous avons 3 tentations de Jésus qui sont écrites. Mais est-ce que vous croyez que pour les 40 jours, il est juste venu 3 fois? C'est moi le diable. Je te propose de changer les pierres en pain. Bon, non, tu veux pas? Bon, terminé. Et il laisse tranquille 10 jours, et puis il vient avec une autre tentation. Non, les 3 tentations nous sont écrites dans la parole pour nous montrer de quelle manière, d'accord? Il est dit dans la parole de quelle manière. Les 3 tentations étaient à 3 niveaux différents. Un niveau, on pourrait dire naturel, changer les pierres en pain. C'est nos besoins physiques, c'est et le désir peut-être aussi de puissance, hein, de voir des miracles. Et puis il y avait une autre manière, c'était si tu te prosternes et tu m'adores, ça veut dire ne pas avoir Dieu comme principal sujet d'adoration, mais adorer une créature plutôt que le créateur. Et puis aussi tenter Dieu en se précipitant du haut du temple. Donc c'était différentes manières. Mais moi je suis persuadé qu'il est venu plus que 3 fois. Vous ne croyez pas? Voilà, pendant 40 jours et plus que 3 fois. C'était pas juste, il fallait tenir 5 minutes, maintenant c'est bon, on a réussi. Non, je pense qu'il avait faim avant les 40 jours. Parce que la Bible nous dit, il n'a rien mangé pendant 40 jours et il eut faim. Mais à mon avis, ça a dû commencer avant le fait d'avoir faim et ça a dû durer pendant de nombreux jours. On ne peut pas dire après, au bout d'un moment, on ne sent plus rien. La faim, elle est là quand même et elle est tenace. Donc, réalisons ça, qu'il y a un moment où il faudra tenir ferme. Alors, la meilleure façon de tenir ferme, et ça j'avais un petit peu abordé aussi, c'est de remplacer l'habitude négative, l'habitude mauvaise, la remplacer par autre chose. Il ne faut pas que la maison soit vide, balayée et ornée. Il faut la remplir. Et moi j'aime mieux, vous savez, si on était maintenant avec cette pièce, volet fermé, lumière éteinte, on ne dirait pas, maintenant il faut qu'on sorte toutes les ténèbres de cette pièce pour après que la lumière puisse rentrer. Mais non, on fait plus simplement. On rentre et on a l'habitude d'appuyer sur le bouton. La lumière vient et on ne se pose même plus de questions, mais où sont passées les ténèbres? Avant, il faisait noir. Et où est passé tout ce noir? On ne se pose pas la question. Dans la présence de Dieu et dans notre vie, et qu'elle y demeure, parce que c'est ça, l'habitude, c'est quelque chose qui demeure. Or, c'est ce que le Seigneur veut faire, n'est-ce pas vrai? Jean 15, non, pas de plus beau passage que ces quelques lignes de l'évangile de Jean, où Jésus partage son cœur avec ses intimes, ses proches, et il leur dit des choses merveilleuses. Verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a tout là-dedans. Alors, comment faut-il faire? Il faut maintenant commencer. Ne vous posez pas de questions maintenant. Comment je vais faire pour me débarrasser de ceci, de cela, etc. Remplacez les choses. Mettez des choses de Dieu dans votre vie. Après, il n'y aura plus la place pour d'autres choses. Vous savez, par cet accident que j'ai eu, maintenant j'ai eu de la rééducation. J'apprends de nouveau à marcher, ça va assez bien. Mais l'autre fois, il y a à peu près 15 jours, j'ai eu un choc parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose qui semble tellement simple. Et je ne pouvais pas. C'était d'avoir les deux pieds comme ça et de pouvoir me hisser sur la pointe des pieds. Avec deux pieds, ça va. Mais on m'avait demandé de le faire avec un pied et celui qui était blessé. Alors je me rends compte qu'une chose toute simple comme se mettre sur la pointe des pieds, ça ne va plus. Alors il fallait de nouveau s'entraîner et apprendre, etc. Et donc les choses toutes simples deviennent compliquées. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons apprendre tous les jours à laisser la présence de Dieu nous remplir. Et je me suis dit que quand j'ai eu besoin de cette rééducation, je me suis dit, ça fait quand même 3 fois par semaine, au moins 1 heure. Si vous m'aviez demandé concernant mon emploi du temps, est-ce que tu as 3 heures à m'accorder par semaine? Je me serais dit, non, celui-là est exigeant, hein. J'ai déjà pas mal de choses à faire, alors s'il faut que je prenne 3 heures. Mais vous savez, quand il faut les 3 heures, on les prend, hein. Quand c'est nécessaire, il y a des gens qui sont à l'hôpital, on n'a pas demandé, est-ce que tu as du temps pour aller à l'hôpital maintenant? C'est pas vraiment une plaisanterie ce que je fais. C'est d'expliquer simplement que avant on se dit, j'ai le temps pour rien. Jusqu'à ce que votre vie bascule, et je ne vous souhaite pas de tout un accident ou quelque chose de tragique, mais tout à coup, on ne se pose plus les mêmes questions. Celui qui a une activité professionnelle débordante, un travail ou je ne sais pas quoi, l'autre jour, nous cherchions, on voulait faire plaisir à un de nos enfants, et il nous a demandé si on pouvait l'emmener au restaurant. Alors on a cherché un restaurant. Je téléphone à un restaurant pour voir si c'était ouvert. Puis la dame me dit, On est fermé, mon mari est paralysé. Il a eu une attaque cérébrale et c'est fermé. Et on est en train de vendre. Vous savez, ça m'a fichu un coup, hein. Quand vous entendez la détresse des gens, et je crois que c'était même pas un hasard de Dieu qu'on téléphone juste là-bas, hein. Et j'ai donné aussi une parole pour encourager cette personne, j'ai prié pour elle depuis. Mais j'ai dit, ces personnes avaient certainement beaucoup de projets pour leur vie. Et peut-être si on leur avait dit, tu sais, ce soir on a une réunion d'études bibliques. Je dis, ah ben non, on n'a pas le temps, le restaurant est ouvert. Hein. Et le dimanche matin, on a un culte. Ah non, pour un restaurant, on ne peut pas aller. Je ne blâme pas les restaurateurs, je vous explique juste à titre d'illustration. Elle dit, mais non, le dimanche matin, il faut qu'on fasse la cuisine, après il y a les clients qui vont arriver. Mais maintenant, on ne se pose plus la question. Leur vie a basculé. Et lui ne peut plus rien faire, il est paralysé, et elle ne peut pas gérer tout seul. Et tout à coup, les priorités deviennent différentes. Alors nous qui avons maintenant la possibilité de choisir le Seigneur, la Bible nous dit que nous ferions mieux de le choisir maintenant et de profiter de le servir dans la bénédiction et dans les choses que Dieu nous donne. Parce que effectivement, quand il a fallu faire de la rééducation, tout à coup, je ne sais pas d'où ils sont venus, il y avait 3 heures par semaine qui étaient disponibles pour la rééducation. Alors, il y a certainement quelque chose que je n'ai pas fait, que je faisais avant pendant ces 3 heures. D'accord ? Mais je crois que dans la vie de chacun d'entre nous, c'est possible. C'est possible. Disons simplement au Seigneur que nous voulons que ça se passe comme ça. Je veux changer d'habitude. Et vous savez, quand on fait les choses à la manière de Dieu, après on se rend compte que beaucoup plus est réalisé. Plus est réalisé, on est plus satisfait, on est dans la paix. Je ne peux pas m'empêcher maintenant de vous donner encore cette illustration. C'était cette dame qui était mariée, son mari était dur avec elle. Et vous savez quoi? Il lui faisait une liste de toutes les choses qu'elle devait faire chaque jour. Alors il y avait toutes les tâches et tout ce qu'il attendait. Soir, il vérifiait si le travail était fait, et puis il rouspétait, et elle n'arrivait jamais à faire ce qu'il attendait d'elle. Et il se trouve que cet homme est décédé, et plus tard, cette dame a retrouvé quelqu'un, et puis un amour est né, ils se sont mariés, et puis ils étaient heureux ensemble, et ils vivaient vraiment bonheur conjugal. Et un jour, elle retrouve un papier de son ancien mari, avec une de ces fameuses listes qu'il avait faites, et elle réalise que dans sa journée, elle faisait tout ce qui était écrit sur la liste, et encore bien plus, sans avoir la pression. Moi, je trouve que c'est une belle illustration. Et moi, je crois que Dieu veut faire la même chose avec nous. Peut-être, des fois, on se donne des listes et tout, légalisme. On est des fois très dur avec soi-même. C'est ce que je disais. Une des mauvaises habitudes, c'est d'être dur avec soi-même et les autres. On est exigeant. Et on croit que c'est ça, être disciple. Je me fais des listes. Voilà ce que je vais faire. Lire tant de chapitres par jour, etc. Des fois, c'est vrai qu'il faut se pousser un petit peu. Mais Dieu n'a pas vraiment envie que ça se passe de cette façon, vous savez. Il a plutôt envie que l'on puisse vivre quelque chose avec lui. Et on va réaliser après que ce qu'on aura fait est bien plus que tout ce qu'on se serait soi-même obligé. Donc, merci Seigneur nous aider à continuer dans ce sens et de prendre des bonnes habitudes. Bonnes habitudes qui vont nous aider. Notre muscle d'affroid sera exercé. Ce sera de plus en plus facile. Nous croyons que le meilleur est devant nous, n'est-ce pas vrai? Donc les choses vont devenir plus faciles. Le monde, lui, voit les choses de plus en plus difficilement. Et il a raison, parce qu'il vit sans Dieu. Mais pour nous, c'est normal que les choses vont devenir de plus en plus faciles. Alors comme je vous ai dit, il y aura des moments de pression, de tension. Mais nous n'abandonnerons pas, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous tiendrons ferme. Amen.